Soyez les bienvenus sur le site de l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Pour guider nos réflexions ce matin, nous suivrons le récit de la rencontre entre Jésus et un infirme. Et nous laisserons alors résonner ce texte en nous, avec trois regards. Un regard de Jean-Gustave, médecin hospitalier, mon regard, et puis celui de Martin Verung, donc pasteur aumônier aux hôpitaux. Peu après, les Juifs célébrèrent une fête religieuse et Jésus se rendit alors à Jérusalem. Dans cette ville, il y a, près de la porte des brebis, une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethesda. Dans ces galeries, une foule de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous, car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier malade qui descendait dans l'eau ainsi agité était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps, Jésus lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Et le malade lui répondit, « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Or, cela se passait le jour du sabbat. Et les chefs juifs dirent à l'homme qui avait été guéri, « C'est le sabbat, tu n'as donc pas le droit de porter ta natte. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. » Ils lui demandèrent alors, « Qui est celui qui t'a dit, prends ta natte et marche ?» Mais l'homme qui avait été guéri l'ignorait, car Jésus avait disparu dans la foule qui se trouvait à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri maintenant, ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » L'homme alla dire au chef juif que c'était Jésus qui l'avait guéri. Ils s'en prirent alors à Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. »
Pierre, Martin, et vous tous, réunis ici ce matin, imaginons ensemble la scène fascinante qui nous est décrite dans ce passage biblique. Nous sommes au pied de la colline du Temple de Jérusalem, près de la porte des brebis ou des agneaux, ainsi nommée parce que c'est à travers elle que passaient les brebis et les agneaux qui étaient apportés au temple pour y être sacrifiés. C'est aussi la porte par laquelle Jésus est passé durant la semaine de Pâques, le même qui est appelé dans la liturgie de Pâques des églises chrétiennes l'agneau victime pure qui a ôté le péché du monde. Nous sommes devant un réservoir d'eau que certains appellent une piscine naturelle. Le réservoir ou la piscine est entouré de 5 porches, sorte de terrasse couverte est dénommée Bethesda, ce qui veut dire en araméen « maison de la miséricorde ». Les cinq porches sont encore un exemple de l'utilisation du nombre 5 dans les Écritures, qui en général attire notre attention sur une grâce ou une faveur non méritée. Le réservoir a été dénommé ainsi parce que les pèlerins savaient qu'un ange venait de temps en temps se baigner dans ce réservoir, y faisait bouillonner l'eau qui acquérait alors des vertus thérapeutiques et permettait aux premiers qui s'y plongeaient de guérir de maladies diverses et variées, manifestant ainsi la miséricorde et la grâce de Dieu. La réputation de l'endroit était telle qu'il attirait régulièrement des dizaines de malades, infirmes, handicapés, qui campaient dans les cinq porches, dans l'attente du moment où ils pourraient être plongés dans l'eau devenue tumultueuse. Sous les cinq porches se trouvaient bien entendu aussi des mendiants qui espéraient des aumônes ou de la nourriture, ou au moins de l'eau. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait dans de nombreux pays, mais en particulier ceux de culture protestante, des maisons de retraite, des centres diaconaux, des cliniques ou des hôpitaux ou d'autres institutions de santé qui sont dénommées Bethesda, c'est-à-dire maison de la miséricorde. Nos hôpitaux, prenez par exemple nos deux grands hôpitaux à Strasbourg, en l'occurrence l'hôpital de Haute-Pierre et le NHC, nouvel hôpital civil. Ils sont en fait aussi des sortes de temples de la santé dans lesquels vous retrouvez des accidentés, des patients atteints de maladies cardiaques, pulmonaires, cancéreuses, des handicapés, des gens n'ayant pas le minimum vital pour survivre, etc., à l'image des gens que l'on trouvait sous les porches autour de la piscine de Bethesda. Dans ces hôpitaux ou temples de santé, officient de véritables prêtres des deux sexes, médecins, infirmières, aides-soignantes, qui se promènent parfois en blouse ou en pyjama de travail blanc ou vert, parfois revêtus de calots et de masques. Nous nous rendons tous, à un moment ou un autre, et parfois en urgence, dans ces temples de santé pour lesquels nous ne payons comme participation obligatoire pas seulement la dîme biblique de 10%, mais bien jusqu'à 18% de nos revenus pour avoir le droit de contempler les sourcils du prêtre thérapeute médecin penché sur nous pour nous soigner. La médecine contemporaine nous promet l'espoir d'une santé éternelle ou tout au moins jusqu'à un âge avancé, mais seulement à condition de suivre des exercices quasi ascétiques prévus sous la forme de régimes divers et variés, de séances de sport et autres activités physiques prescrites, et en nous astreignant à manger 5 fruits et légumes par jour, tout en renonçant bien sûr au tabac, à l'alcool et à toute autre drogue. Néanmoins, le temps qui passe nous rappelle aussi le truisme que l'homme et la femme, malgré les promesses sensationnelles de la médecine moderne et malgré les anges qui barbotent parfois dans ces temples où la médecine peut provoquer des guérisons, ces hommes et ces femmes deviendront un jour vieux et dépendants. Ils devront quitter ce monde aussi dépendant des autres et sans défense qu'ils y sont un jour venus. Et c'est en particulier en début et en fin de vie que l'on voit ce qui est indispensable à l'essence même de l'homme. L'homme n'est pas avant tout celui qui est performant et qui façonne le monde qui l'entoure. Il est avant tout un être qui a besoin d'attention, de soins, d'amour et d'aide. Le théologien allemand Eberhard Jüngel l'a dit de manière percutante. Les enfants et les vieillards représentent de la façon la plus naturelle qui soit la prééminence absolue de la personne sur ses œuvres et sur ses réalisations. Ils sont dépendants d'autrui. C'est en respectant leur dignité, en les considérant comme égaux à nous-mêmes, que notre société centrée sur les performances tous azimuts méritera d'être appelée une société humaine. Il y a 450 ans, quelques années après la Réformation, cet épisode de l'Évangile de Jean a beaucoup impressionné un mécène donateur et responsable d'un hôpital hospice dans une ville allemande. À l'occasion de la mort de sa femme, il a dépensé une coquette somme d'argent pour commander un tableau afin que nous puissions encore savoir aujourd'hui où il voyait dans ce tableau. Je reconnais, ce n'est pas très visible malheureusement. Si vous souhaitez, vous pouvez venir jeter un coup d'œil après. Regardez de près ce tableau et vous découvrirez au milieu du tableau notre donateur ressemblant à Martin Luther. Dans ce tableau, il y a beaucoup de mouvements autour de la piscine avec l'ange. Mais là n'est pas la place de notre homme. Il a demandé au peintre de le représenter à côté de Jésus. On pourra dire avec raison, mais bien sûr, cet hôpital hospice se considérait comme une institution diaconale et ce mécène se considérait comme un diacre. Or, et ce qui est intéressant dans ce tableau, il ne s'est pas contenté de se faire peindre à côté de Jésus qui lui pose la main sur l'épaule. Vous le trouverez aussi tout à fait à gauche, dans le coin, au chevet d'un malade. Il s'agit là de l'attention humble, du service quotidien qui est à refaire chaque jour pour permettre que chaque patient soit accompagné par un frère ou une sœur en humanité, qu'il soit soignant ou simple visiteur amical. Notre mécène nous demande de garder quotidiennement cette image devant les yeux, surtout si nous sommes soignants, aumôniers ou visiteurs. Et quel est notre rôle de paroisse, de communauté chrétienne fraternelle envers ceux de nos membres et leurs proches qui sont malades et en fin de vie? Mais certes, soigner peut aussi devenir éprouvant et dans les métiers du soin, le danger du burn-out est particulièrement élevé et atteint particulièrement le soignant qui veut rester humain en manifestant au patient empathie et sympathie. Celui-là souffrira plus particulièrement de ce que les heures de travail pour les soins soient réglementées de plus en plus sévèrement. L'humanité, c'est-à-dire le souci de l'homme pour l'homme, restera forcément à un certain moment sur le côté de la route. Mais pour les salariés chrétiens, comme pour les bénévoles, le même conseil du mécène reste valable. Ne vous attaquez pas seul à la souffrance du monde. Faites-le en tant que collaborateur du Christ et de ses apôtres. Faites-le aux côtés de celui qui peut prendre la souffrance et la mort sur lui. Ne le faites pas sans sentir la main du Christ sur vos épaules, comme notre mécène sur ce tableau. Être un homme pour l'homme ne veut pas seulement dire soigner, aider, donner. Nous serons aussi enrichis par celui dont nous nous occupons. Le Christ ne nous rencontre-t-il pas précisément à travers les plus petits parmi nos frères et sœurs? Celui qui veut être un homme pour l'homme se tiendra soudain à côté du Christ et tiendra sa main. Et à cela, notre mécène n'a rajouté qu'un mot. Amen.
Vous avez un malaise à voir l'image. Eh bien, moi, j'ai un malaise avec le texte de l'Évangile. J'en ai même trois que je voudrais partager avec vous. Mon premier malaise, c'est le lieu lui-même et le malade. C'est un lieu pas net, ambigu, chargé d'enchantement, de religion populaire, d'un judaïsme teinté de paganisme local, où l'eau a une vertu quasi magique. Et le texte lui-même de la Bible, les manuscrits, ne sont pas clairs. Certains ont enlevé les descriptions du lieu. La grammaire elle-même du texte grec est curieuse. C'est comme s'il y avait une difficulté à décrire ce lieu ou à y être. C'est gênant, compromettant. Imaginerions-nous Jésus à Lourdes ou au milieu des menhirs de Carnac? Pourquoi pas? Il y est. Il est présent dans ces lieux chargés d'attentes ambiguës, rejoignant les gens là où ils sont, dans leurs conceptions, dans leurs espoirs, dans leurs ambiguïtés. Sa manière d'habiter sera néanmoins un peu décalée. Nous le verrons. Mais il se compromet dans des lieux de vie ambigus, là où les gens sont. Et le malade lui-même n'est pas très net, puis-je, j'aimerais dire. Parce que la question de Jésus, « Veux-tu guérir ?» C'est curieux d'interroger un malade en lui disant « Mais est-ce que tu as vraiment envie de guérir ?» Et une question qui semble interroger plus profond. La maladie serait-elle parfois un refuge contre un plus grand mal-être ? Guérir n'a pas toujours la légèreté invoquée. Guérir, c'est rentrer aussi dans le rang. C'est cesser d'être différent, marcher sans bâton. Est-on toujours sûr de vouloir être bien portant quand cela veut dire se prendre en main, se lever ? Le malade, dans ce lieu malaisé, a-t-il une relation claire avec lui-même ? Mais ce sont les personnages de l'Évangile, c'est moi. C'est aussi Nicodème qui vient voir Jésus de nuit. Là aussi, c'est flou, ou bien la femme samaritaine en pleine chaleur de midi. Là aussi, c'est flou. Voilà, ça, c'était mon premier malaise. Le second, c'est ce lien quasi de cause à effet entre maladie et péché. C'est gênant de lire que Jésus, Christ, puisse penser que la maladie serait la conséquence d'une faute. Comment accepter cette parole qui est là ? Ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Voilà. Après tout, ça rejoint bien des idées que j'ai moi-même, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ce qui m'arrive ? Voilà. Comment comprendre que Jésus semble lui aussi entrer dans cette compréhension ? Peut-être qu'il rejoint là aussi les gens, non seulement dans les lieux ambigus où ils sont, mais aussi dans leur conception ambiguë. Il serait peut-être lui aussi pris dans cette idée si présente et si répandue. Il faut parfois être juif avec les juifs et grec avec les grecs pour tout simplement pouvoir rencontrer les gens. Peut-être une autre manière de comprendre, c'est qu'il recadre, il décale. Il dit cette phrase à la fin, lorsque la personne est guérie. Parce que la vie retrouvée ne devrait pas se comprendre au seul sens de la santé physique, mais aussi spirituelle. La parole « ne pêche plus » orientée vers l'avenir marque bien que c'est l'avenir de la relation entre Dieu et la personne qui est en jeu. Avec la guérison, il y a un nouveau départ. Peut-être une autre manière de comprendre cette parole difficile de Jésus, c'est aussi de voir qu'il y a sans doute une progression dans le déroulement de l'Évangile. Quelques chapitres après, dans l'épisode de la rencontre avec la personne aveugle de naissance, Jésus va déconnecter clairement la maladie de la faute. On l'a vu ce matin au petit déjeuner, la question ne sera plus pourquoi la cause de la maladie, le varum, mais la question sera qu'est-ce qu'on en fait ? Le but, le pourquoi avec le fameux espace d'interrogation et d'avenir, le vautsou. Il s'agira plus d'expliquer, mais à ce moment-là de guérir et de vivre. Mais la phrase est là, ambiguë, avec un certain malaise, parce qu'elle est là. Et puis mon troisième malaise, c'est la question du sabbat. Alors bien sûr, ce sont les perfides pharisiens qui se trompent, heureusement qu'ils sont là. Mais après tout, la question est là aussi posée, et je suis moi aussi, comme ces pharisiens, souvent mal à l'aise avec des gestes, avec des paroles, avec des remèdes qui bousculent mes représentations et mes idées du monde, de la vie, ou de la guérison. Une guérison perturbe ici un système de conviction des pharisiens. Car la manière dont la guérison a eu lieu dérange des repères, embrouille des convictions et rend flou aussi les frontières. Alors ça nous paraît dépassé aujourd'hui parce que, bien entendu, nous le savons, l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Mais est-ce que je ne suis pas, moi aussi, parfois gêné? Je prends de l'homéopathie, mais je souris. Est-ce que je pense que c'est un placebo? Et puis, j'écoute mon frère et je prends les minéraux à énergie qu'il me donne pour se soigner. Ou bien Madame Mangenet qui va soigner son zona grâce à une magnétiseuse rebouteuse. Mais ça marche. Ou bien par la prière, par la parole. Il y a aussi ainsi des changements qui perturbent des systèmes de conviction et qui m'amènent moi aussi à me déplacer. C'est souvent à travers des malaises que l'on arrive à mieux voir et à mieux avancer.
Chers frères et sœurs, dans ce récit, c'est la parole de Jésus qui guérit. À Bethesda, les gens venaient se plonger dans la piscine pour être guéris comme par magie. Jésus suscite une autre attente, celle d'une parole. Il touche l'infirme par des mots et pas par des gestes. Il ne le console pas, il ne le caresse pas. Il est dans le dialogue, faisant de lui un interlocuteur, un vis-à-vis à part entière. Jésus ordonne : lève-toi, prends ton grabat et marche. Et aussitôt, l'homme a été guéri, il a pris son grabat et il a marché. La parole de Jésus fait ce qu'elle dit. C'est elle qui revivifie le malade, qui tout de suite retrouve la vie et aussi la parole. Lève-toi, prends, marche. Trois impératifs, trois verbes qui impliquent le mouvement, un appel à l'activité. Mais c'est Jésus qui prend l'initiative par pure grâce et lui demande d'être partie prenante, de se réapproprier cette guérison qui lui est offerte gratuitement. Lève-toi, redresse-toi, déplie-toi de ta recourbure sur toi, appuie-toi sur ma parole et mets-toi debout. Tel est le premier ordre. Être debout, c'est être en position verticale, position qui fait toute la différence entre l'homme et l'animal et qui libère le regard. L'homme debout peut lever les yeux vers le ciel. Jésus lance un appel à cet homme. C'est une invitation vigoureuse à tourner les yeux vers le haut, vers le Père, et à attendre de lui aide, tendresse et pardon. Ce sont là les prémices de toute marche en avant. Être debout dans sa verticalité, c'est cette attention de tout l'être qui touche la terre et qui, pleinement orienté vers le Père, est si libre que cela s'articule avec l'axe horizontal, celle de la relation à soi et aux autres. On pourrait traduire cette parole de Jésus par « Réveille-toi, ouvre les yeux sur le monde, la création, ton prochain, et sur moi qui passe à côté de toi et que tu ne vois pas, qui te parle et que tu n'écoutes pas. Éveille-toi à ceux qui t'animent et animent ton prochain, ne t'endors pas, ne te laisse pas glisser dans le désespoir. Réveille-toi, et dans ces temps après Pâques, on pourrait dire « ressuscite ». Puis Jésus ajoute « Prends ton grabat, emporte ta civière ». C'est ce qu'il dit aussi au paralytique qui est descendu par le toit. Il le précise, ce n'est pas juste une parole anecdotique, une parole utilitaire. Cette deuxième parole ordonne à ces hommes de se charger de leur lit de souffrance, de ne pas l'abandonner là, comme si de rien n'était, et comme si rien ne s'était passé avant ce jour, comme si tout ce passé était effacé, passé aux oubliettes. Ainsi de même que notre corps aujourd'hui est bien ce même corps que nous avions à un jour, un an, 10 ans, de même nous sommes faits de ce que notre histoire passée a été. C'est tel que nous sommes, avec ce qui a fait ce que nous sommes, que nous avons à prendre la route. Quelle que soit notre histoire, quel que fût son mal, nous ne pouvons rester debout si nous n'acceptons pas de la prendre en charge, de l'assumer, et d'en vivre la vraie responsabilité. Sur ce chemin, nous aurons à apprendre à nous défaire de la mauvaise culpabilité. Ce sera le chemin de la demande de pardon. Jésus n'a jamais eu de parole de reproche pour l'un de ceux qu'il a guéri. Il a renvoyé l'infirme, marchant et libre. Il n'a pas accablé de reproches la femme samaritaine près du puits quand il lui a parlé de ses 5 maris. À la femme adultère, il déclare « Moi non plus, je ne te juge pas. Va désormais et ne pêche plus. » Jésus ne demande jamais de se charger du poids de sa culpabilité. Vient ensuite le troisième ordre « Marche ». Au sujet en panne, Jésus ordonne de se remettre en route. Et il en a les moyens. C'est la grâce qui lui sera donnée suffisamment au jour le jour. Mais pour être guidé, il est nécessaire de s'être mis en mouvement. Le dynamisme ne peut éclore du statique que si quelque chose bouge. Redevenir un être désirant, avoir une colonne vertébrale axée, en gardant les pieds fermement ancrés au sol et les yeux levés vers Dieu, puis marcher, affronter la vie, les événements passés, présents et à venir, rencontrer les autres, entrer en circulation et l'échange. Tel est l'appel. Telle est la voix qui proclame que la vie est offerte à chacun et qu'elle est offerte en abondance. « Moi, je suis venu, dit le Christ, pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Le jaillissement de la grâce est gratuit. Elle peut surgir à l'imprévu, mais son effet va demander un lent travail d'intégration. Premier carrefour, premier pas sur la route. Se lever ou non? Marcher ou non? Emporter son grabat ou non? Obéir ou désobéir? Cet homme opte pour l'obéissance. Et Jésus va le laisser affronter la réalité, la foule, les pharisiens, et c'est rude. On l'interroge et il répond. Cet homme a accueilli la grâce dans son corps. Il est fortifié, mais sa foi, pour l'instant, reste gelée. Il ne savait même pas qui était celui qui l'avait guéri. Les yeux de son âme reste aveugle. Et Jésus à nouveau fait le premier pas pour le rencontrer au temple. Mais cette fois-ci, pas d'ordre, mais une sorte de mise en garde. Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Une rechute serait-elle possible? Sans doute quelque chose de cet ordre, puisqu'il connaît maintenant son péché et les effets de la grâce. C'est un appel maintenant à s'ouvrir davantage à ce don de Dieu, à la grâce, d'ouvrir son espace, de vivre et d'aimer en abondance. Et c'est ce qu'il choisit de faire. Il va et prend sa vie en main. Il fait circuler la parole et devient lui-même une source. Il ose dire qu'il a guéri. Il a été renouvelé dans les trois dimensions de son être. Le corps, le psychisme et enfin la spiritualité. Il annonce la richesse d'une voie, c'est-à-dire d'un chemin, où tout l'être en Dieu s'ouvre à l'avenir. Cet homme qui était sans nom, infirme, d'ailleurs il n'a pas de nom, infirme, informe et muet, s'inscrit dans le mouvement. Le va-et-vient de la parole, de l'action et de la relation. Du gisant, il devient un sujet en devenir, capable de faire des choix et de prendre des risques. Mais de tout cela, c'est Jésus qui en a pris l'initiative. Le premier pas dans ce récit est fait par Dieu. Le récit nous dit que Dieu fait ce pas en nous et sans nous. Mais les suivants ne peuvent se faire sans nous. Jésus suscite l'avec nous. L'homme de Bethesda ressuscite lorsqu'il entre dans cet avec. Ce récit nous parle de l'alliance de Dieu et des hommes. L'homme ne peut rien sans Dieu et Dieu sollicite la collaboration de l'homme. C'est un évangile de l'annonce de la gratuité de la grâce et de l'appel à la contribution de l'homme. Un évangile qui signifie à l'homme sa part de travail. Comme le dit le Christ, « Mon Père est à l'œuvre et moi aussi j'œuvre ». Nous ne sommes pas au-dessus du Christ, mais nous avons à travailler, à être acteurs de notre vie. Nous avons à nous fier à Dieu, car il ne prend pas les décisions à notre place. Tout commence en Dieu. C'est Jésus qui initie le dialogue avec l'infirme et tout aboutit à Dieu. C'est dans le temple que se clôt le récit. Ainsi, notre place pourrait être celle qu'Ignace de Loyola décrit ainsi. Fie-toi en Dieu, comme si le succès des choses ne dépendait que de toi et en rien de Dieu. Alors mets-y tout ton labeur, comme si Dieu allait tout faire et toi rien. Dieu est la source et l'aboutissement. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Que la parole de Dieu soit pour vous l'assurance de son amour et de sa paix.